Bonjour, c'est Raphaël Marchal qui vous parle. Je suis journaliste culinaire et je termine toujours mon assiette. Bienvenue sur À côté de la plaque, le podcast qui parle de tout, sauf de bouffe. On connaît des chefs, leur parcours, leur terroir, leurs produits, leurs plats signatures, mais est-ce qu'on les connaît eux ? Leurs envies, leurs phobies, leurs croyances, leurs faiblesses, leurs lubies, leurs secrets, leurs combats, leurs drôleries, leurs contradictions, rien n'est moins sûr. Alors asseyez-vous et écoutez, deux fois par mois, sur Business of Bouffe.
Bonjour Anne-Sophie et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
Bonjour Raphaël, ravie.
ravie également. Première question, comment allez-vous aujourd'hui et en ce moment?
Mais écoutez, ça va plutôt bien. On vit une période particulière, mais bon, on a relativisé les choses et je suis plutôt heureuse de cette réouverture de mes restaurants, de ce qui s'est passé, des décisions que j'ai prises. Donc je suis plutôt plus sereine qu'il y a quelques semaines, oui.
Qu'est-ce que vous avez pris comme décision?
Bah en fait, de changer beaucoup de choses finalement dans ma façon de travailler, dans la proposition aux clients, notamment à Valence en particulier, où j'ai voulu fonctionner un petit peu en ayant un menu unique, en ayant une expérience un peu polysensorielle beaucoup plus aboutie que ce que je pense j'avais avant. Et donc j'ai mis le curseur à un endroit différent de ce que j'avais aussi, et je souhaitais pas rouvrir après aussi longtemps sans vraiment révolutionner un petit peu ma façon de travailler, celle des équipes aussi. Donc j'ai besoin de changement, exactement.
Je comprends. Est-ce que vous êtes une lève tôt?
Alors, par nature, non. Par obligation, oui. une très, très couche-tard.
D'accord. Donc couche-tard, lève tôt, quoi.
Voilà. Par la force des choses.
Le combo chef.
C'est un peu ça.
Anne-Sophie, qu'est-ce qu'on ignore de vous ?
Ben, finalement, je me rends pas trop compte de ce qu'on ignore de moi, mais je suis assez secrète finalement. Je suis quelqu'un de par mon éducation aussi. Je mélange pas vie privée et vie professionnelle, même si elle est intimement liée, bien sûr, hein, très très liée, puisque je travaille avec mon mari, c'est notre entreprise. Mais j'essaye tant soit peu de garder un jardin secret sur ma vie personnelle, parce que voilà, par nature, c'est cet équilibre, j'ai besoin de cet équilibre.
Bien sûr. Donc on ignorera toujours tout.
En fait, je pense qu'on ignore pas grand chose, mais enfin que je suis aussi très visible. On sait que j'ai un fils, que j'ai un mari, mais je communique pas sur notre vie à tous les trois et sur ma vie avec mes amis. Enfin, je suis assez secrète sur cette vie privée.
Qu'est-ce qui vous agace dans la vie?
Alors, je crois que c'est l'injustice qui m'agace. Je suis très très sensible à ça, en fait. Je suis quelqu'un de sensible en règle générale, et l'injustice me terrorise, en fait.
Ah, à ce point, depuis toujours?
Oui, je crois que oui, c'est ça. Je suis quelqu'un qui vit un peu dans l'absolu. Donc je déteste être injuste et je déteste être victime d'injustice.
Vous avez un exemple récent justement qui vous a révolté?
Bah, vous savez, à partir du moment où on est dans une exposition médiatique, il y a forcément des choses qui peuvent être dites et qui sont fausses. Donc oui, quand on peut être amené à dire que je suis pas bienveillante avec les gens qui travaillent avec moi, ou que je serais pas aussi bienveillante que je laisse penser, c'est quelque chose qui me révolte absolument, bien sûr. Quand on essaye de faire changer les choses dans une profession et de au contraire d'amender les choses, d'aller plutôt vers le haut, et donc ça oui, ça m'affecte terriblement, parce que finalement c'est une parole contre une autre, donc forcément l'aider sont pipés dès le départ, quoi. On peut rien faire, justement.
Oui, oui. Qu'est-ce qui vous fait pleurer?
Alors, ce qui me fait pleurer, c'est souvent le talent de l'autre.
Voilà, c'est vrai.
Ouais, vraiment. C'est je suis touchée par le talent des uns et des autres, et j'ai aussi beaucoup travaillé entre guillemets à m'entourer de gens qui m'inspirent et qui m'émeuvent, comme je pense spontanément à Francis Kurdjian, parce que c'est vraiment un grand ami, et c'est vrai que dans ma cuisine, j'ai aussi cherché beaucoup à associer des saveurs, et du coup, ça me ramène tout de suite à l'olfactif. Donc, forcément, son talent de parfumeur m'émeut. Les discussions me portent. Tout comme lire quelque chose, la lecture aussi peut beaucoup m'émouvoir, donc choisir le mot juste, voilà, plein de choses. En fait, c'est la justesse des mots, je dis souvent d'être dans le moment pleinement, en fait. Et ça, c'est le livre, par exemple, Nagori de Ryoko Sekiguchi, particulièrement. Parce qu'elle a une description très fine de la réalité des choses, des saisons, grandes saisons. Et ça me touche parce que c'est ce que je ressens au fond de moi. Et en fait, quand on trouve quelqu'un qui sait mettre en mots ce que vous ressentez, ou qui va mettre en parfum ce que vous aimez, ou qui a cette délicatesse de la vie, finalement, et de saisir. Les émotions, voilà, c'est ça qui...
Est-ce que vous avez une phobie, une angoisse, une peur un peu quotidienne?
Bah, je suis un peu hypochondriaque, donc j'avoue.
Ah oui, donc en ce moment, c'est pas la fête.
En ce moment, c'est pas la fête. Et voilà, mon père l'était aussi beaucoup, pour autant, il travaillait comme un fou et ça l'empêchait pas, voilà, de. Et il n'était pas forcément très chez le docteur toutes les secondes, mais en fait, moi, c'est juste l'histoire de se dire. Il y a une forme très difficile sur le Covid et c'est terrible, mais voilà, le fait de perdre le goût et l'odorat, ce serait pour moi un peu. Compliqué. Donc, il y a un petit peu c'est peut-être ça qui m'angoisse. Après, plus jeune, on a d'autres angoisses et en vieillissant, on en a d'autres qui arrivent. Enfin, je crois que, voilà, c'est un peu. Après, il faut prendre du recul par rapport aux choses. Donc, j'essaye de prendre du recul et puis d'être face à mon destin pleinement aussi.
Et puis, voilà. Je suis sûre qu'avec votre caractère, si vous perdiez le goût et l'odorat juste un temps, vous en feriez une expérience assez dingue, en fait. Ça doit être fou.
Oui, il y a des chefs qui ont été.
Ah oui.
Un chef américain qui a eu le cancer de la gorge, donc qui a perdu le goût longtemps, et qui a trouvé. Oui, je suis sûre que je trouverais un sens différent et ce serait une expérience de plus. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est l'adaptation qu'on peut avoir.
Voilà.
Ouais, aux événements et ça, je pense que ça c'est une grande force de pouvoir avoir cette capacité d'adaptation. C'est soit on se replie sur soi et puis on s'enferme, soit on se dit allons-y. et c'est ce que j'ai vécu un petit peu en début du confinement et à la fin du confinement, où là j'avais repris un regain d'énergie. Je me suis dit allez, on y va, on fonce, quoi. C'est avec mon mari, on a vraiment eu ce sursaut en se disant non, on refuse de s'apitoyer et on avance. Et une fois qu'on fait ça, on se sent beaucoup plus fort.
Est-ce que vous pouvez me raconter votre meilleur échec?
Alors en fait, j'ai pas. Alors il y a forcément des échecs de plat. Je pense souvent à l'asperge chocolat. C'était une idée assez formidable avec le recul quand j'étais 30 ans, quand j'ai pensé à faire ce plat. Et je trouvais que c'était intéressant. Enfin, j'ai toujours eu les idées un petit peu atypiques à mes débuts, mais j'avais peut-être pas les moyens de les aboutir techniquement comme je voulais. donc forcément, il y a des choses où on passe à côté. Mais en fait, quand j'ai vu plus tard que David Toutain avait fait une asperge chocolat blanc à un moment donné, je me suis dit, tiens, il a eu aussi l'idée et il a abouti. Donc, c'est drôle d'être dans l'échec. Mais moi, je suis par rapport à l'échec, j'ai beaucoup pris de recul et je pense que l'échec est vraiment une part de la réussite et qu'on apprend de ces échecs énormément. Et en fait, je dis souvent à mes équipes, quelquefois, on peut avoir l'impression de stagner, mais on stagne pas, en fait. On est dans une transition, pré-réussite et post-échec. Donc voilà, il faut accepter ces moments-là de la vie, et ça, on le comprend avec le temps. Donc mon rapport à l'échec, il est plus positif que ce qu'il a pu être.
Ouais, c'est bien. Depuis quand il est plus positif?
Je dirais depuis 5-6 ans.
Ah oui, c'est quand même assez récent.
Oui, c'est assez récent. Oui, on se rend compte qu'on a du recul par rapport aux choses et que finalement, c'est une force de concentration sur le travail et sur le. On sait qu'on peut ne pas toujours être efficace, ne pas être toujours avoir la super idée. Il faut accepter ça aussi. Donc, c'est aussi pour ça que le travail collaboratif dans la cuisine est important, parce qu'il y a des hauts et des bas sur tout le monde, on n'est pas des machines, donc c'est aussi l'équipe qui permet d'être régulier, en fait. C'est le groupe qui est important. En tout cas, sur le travail créatif, c'est vrai que voilà, il faut se dire que si c'est pas le bon moment, ce sera un autre moment, et que c'est pas au moment où on décide que ça va arriver. quand on est très jeune, c'est pas forcément ce qu'on espère. On est plus dans la fougue de se dire il faut réussir tout le temps, c'est, si on est en échec, c'est négatif. Et avec le temps, on s'aperçoit, on prend beaucoup de recul par rapport aux choses.
Plus de patience.
Plus de patience aussi.
Est-ce que vous avez un trait de caractère dont vous aimeriez vous débarrasser ?
J'en ai plein, plein de défauts. Mais le trait de caractère peut-être que j'ai un peu moins maintenant, et par moments ça revient, mais c'est être un peu soupolé. Ah. C'est un peu l'histoire de l'impatience. Quand j'étais plus jeune, c'était quand je comprenais pas quelque chose, j'étais soupolée parce que je m'en voulais à moi-même, je pouvais m'énerver vite, et puis mais ça c'est très lié à la sensibilité en fait.
Bien sûr.
On attend des autres ce qu'on voudrait. On donne quelque chose et on voudrait en retour, on attend un peu la même chose. Et voilà, des fois on peut être soupoulé, on peut pas comprendre, on peut être. C'est vraiment un trait de caractère que j'apprends à lisser. Et je pense que j'ai beaucoup lissé par rapport au recul, par rapport aux choses aussi. Mm-hmm. Mais j'avoue que c'est un petit trait de caractère que j'ai. Ma mère aime bien ce trait de caractère.
Vraiment, bah oui, j'imagine que ça vient de votre famille.
Mais c'est un peu ça.
Est-ce que vous avez une passion complètement inexplicable qui n'aurait rien à voir avec la cuisine mais qui vraiment vous ressemble ?
Je réfléchissais à quelque chose que je faisais pas avant et que peut-être je fais maintenant j'aime bien les magazines automobiles par exemple. Je suis pas une grande conductrice, on va dire, devant l'éternel, mais je commence à regarder les voitures, tout ça commence à m'intéresser. C'est improbable pour moi, mais...
Mais par curiosité ou parce que vous voulez en acheter une ?
Non, par curiosité, j'aime bien. Je trouve que la belle mécanique, c'est quelque chose, de précis, ça me touche plus qu'auparavant. Alors, c'est peut-être aussi une passion, finalement, qui, dans mon ADN, sans que je fasse vraiment attention, parce que mon grand-oncle, donc le frère de mon grand-père, je remonte loin, avait un garage à l'époque à Valence, mais il avait des voitures, des Bugatti, il y a vraiment des très, très belles voitures. C'est un des garages en France les plus connus, et donc mon père a failli choisir sa carrière. Ils étaient entre donc succéder à son oncle qui avait que des filles, essayer de l'attirer vers lui pour reprendre ce garage et donc faire le métier de son père. Donc mon père a adoré l'automobile et moi j'ai toujours regardé ça de loin, mais en vieillissant j'avoue que donc j'aime bien de temps en temps je regarde en replay ou je regarde Automoto par exemple, je trouve ça génial.
J'aurais jamais deviné ça.
Ah non, mais moi non plus, je
non, mais c'est drôle, ça veut dire que si un jour vous en avez marre de la cuisine, vous avez un autre chemin.
Oui, bon, enfin là il est quand même au tout début ce chemin.
Oui, c'est ça, c'est drôle. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'influençable ?
Oui, je pense que je suis quelqu'un d'influençable jusqu'à un certain moment, en fait. En fait, je suis influençable, mais j'aime la contradiction.
D'accord.
Alors, pas la contradiction quand on me dit brutalement non, parce que ça, c'est pas trop. pour autant, parce que pour moi, quand on dit non à quelqu'un, il faut que ce soit animé vraiment d'un argument, en fait. Voilà, je dis pas non. Aussi brutalement aussi, donc mais j'aime la contradiction, j'aime qu'on m'apporte la contradiction parce que ça m'aide aussi à trouver mon chemin, c'est-à-dire soit à me dire le chemin sur lequel je vais est vraiment le juste, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et voilà, donc c'est pour ça que dans mon travail créatif, c'est toujours un travail que je fais avec un de mes collaborateurs, un de mes chefs, parce que je pense que on s'amène la contradiction quand on est deux et quand on est tous seuls. On rebondit pas tout à fait de la même façon. Donc du coup, peut-être qu'à ce moment-là, je peux être influençable jusqu'à un certain point. Après, j'ai quand même aussi ma force de caractère qui aussi s'amplifie avec le temps. Mais la contradiction est plutôt saine, je trouve, dans une relation.
Bien sûr, ça vous fait progresser.
Exactement, exactement.
Est-ce que vous vous aimez ?
Ah, ça, c'est une question super difficile.
Bah oui, c'est ma préférée.
Alors, en fait, je pense que c'est difficile de dire qu'on s'aime parce que forcément, enfin, quand j'étais plus jeune, j'avais plein de défauts, je trouvais que voilà, c'est compliqué de s'aimer. Après, je pense que on doit, c'est important de s'aimer, enfin, d'aimer une partie de soi en tout cas suffisamment, parce que sinon, on peut pas aimer l'autre. Donc, pour moi, le chemin, il est important, ce chemin de, on doit s'aimer à un moment donné, ou en tout cas, et ce qu'on n'aime pas, eh ben, on doit essayer de se tirer vers le haut et d'améliorer ce qu'on n'aime pas en soi. Mais ne pas s'aimer, c'est veut dire être capable de n'aimer personne. Donc voilà, je pense que c'est plus par rapport à l'autre qu'on doit s'aimer.
Mmh. Oui, je suis d'accord.
Je pense.
Est-ce que vous êtes romantique?
Ah, je suis très romantique. Je suis très fermée.
Ça vous va bien, je trouve.
Mais oui, non, mais c'est vrai. Je suis romantique parce que, après tout, la vie, c'est ça aussi. C'est, alors, j'ai la chance d'être mariée depuis 28 ans. donc, mais pour autant, le romantisme se fane pas. Et mon mari sait entretenir aussi ce romantisme. Donc, c'est, voilà. C'est un mari attentionné, donc voilà. Mais oui, je trouve que j'aime bien regarder des films, voilà, romantiques, avec René Zellweger.
Oui, j'adore.
J'adore. Moi, j'ai fait regarder 10 fois le même. Je trouve ça terrible.
Non, mais moi, j'adore que vous regardiez à la fois Bridget Jones et à la fois Automoto.
C'est juste le paradoxe, mais bon. Ça, je suis quelqu'un qui est dans le paradoxe. Je reconnais.
Ouais. est-ce que vous êtes religieuse?
Alors religieuse, alors je suis croyante en fait. Je crois en Dieu. J'ai une éducation aussi. Donc alors ma mère est catholique, mon père était protestant. Donc voilà, c'est deux visions un peu différentes de la religion. Alors un peu plus austère du côté de mon père et beaucoup moins pratiquant. Mais avec des valeurs en fait, qui m'ont inculqué les deux. Donc du coup, je suis croyante, je suis pas très pratiquante, je reconnais, mais cette croyance me porte au quotidien.
C'est pour vous.
Oui, c'est pour moi. C'est une force. C'est une force considérable en fait. Mm. Mais je ne peux pas être confrontatoire sur ça. Voilà, c'est en moi. Voilà, c'est quelque chose que je peux partager avec certains de mes amis, certaines personnes, je suis pas voilà pratiquante dans l'absolu, je suis pas tout à fait parfaite là-dessus, mais en tout cas je porte ça de façon assez forte.
Mm-hmm. Bah oui, je trouve ça sain. Ouais. C'est à vous, voilà.
Exactement.
Est-ce que vous aimez la mode?
J'adore la mode.
Ah, ça ne m'étonne pas.
Oui, ça vous étonne pas. Hein. Non, en fait, quand j'étais plus jeune, j'adorais la mode et je crois que j'aurais eu un talent de dessinatrice ou je me serais lancée dans. Je trouve que c'est voilà, j'aurais fait ce métier parce que je suis une grande rêveuse et que quand j'étais plus jeune, je rêvais à des robes la nuit quoi. C'était un point fou.
C'est vrai.
Ah oui, vraiment. Non, mais vraiment, c'était vraiment quand j'étais jeune, mais après j'ai laissé. De côté, cette passion, on va dire, ou cette envie, parce que je pensais que j'y réussirais pas, et puis j'avais pas de talent particulier, mais j'avais une grand-tante qui cousait très très bien, qui avait appris à coudre, parce que c'était l'éducation qu'elle avait reçue, et c'est vrai qu'elle m'avait appris à faire des patrons, enfin, c'était vraiment, je m'étais fait des habits moi-même, quoi, donc, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, dans mon adolescence, on va dire.
Et aujourd'hui, ça occupe encore une place dans votre vie?
Oui, parce que je regarde. J'ai demandé à Marina de m'acheter 2-3 magazines de mode parce que j'ai pas eu le temps. J'ai vu qu'il y avait ça qui était sorti. Il faut que je regarde un peu ce qui se fait, les tendances et tout. J'adore le. Je trouve que c'est l'élégance aussi. Ça fait partie de notre culture. Le parfum, la mode, c'est aussi la culture française. Donc je trouve que c'est beau. En fait, il faut en être fier. Et j'aimais beaucoup Azzedine Alaïa parce que je trouvais qu'il avait des coupes de robes somptueuses. Il y a des comme ça, Nicolas Guesquière, des gens comme ça que je trouve assez magnifiques et dans leur talent, en tout cas, je ne les connais pas personnellement, mais dans leur talent qui est vraiment particulier. Et ça inspire aussi, je trouve, que c'est aussi quelque chose qui met en joie quand on regarde quelque chose de beau. Et bien s'habiller, c'est une forme de respect pour l'autre aussi. Enfin, j'aime beaucoup.
Alors, ce sera ma dernière question. Donc, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez déballer tout ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez me raconter votre gueuleton idéal? Voilà, de quoi il est composé, où, avec qui, qu'est-ce qu'on boit, tout.
Voilà, ça c'est... Mais en fait, c'est vrai que je suis... j'ai la chance d'avoir des amis merveilleux, comme tout un chacun. C'est vrai de ne pas en avoir une multitude, d'avoir quelques amis que je retrouve régulièrement. Enfin, en tout cas, les plus intimes sont ceux vers lesquels je vais aller plus régulièrement. Enfin, il y a plusieurs sphères dans la vie, bien évidemment. Il y a des gens que j'aime professionnellement et qui peuvent devenir mes amis. Et puis, il y a aussi des amis un peu d'enfance, de Valence, je veux dire. Des gens de la rue qui sont une autre... conception d'amitié, mais ils sont souvent sur du long terme. Et c'est vrai que pour moi, c'est le moment où je suis en vacances, où on va avoir un barbecue et qu'on va tous cuisiner ensemble. Ça, pour moi, c'est le moment idéal parce que je vais vraiment être avec eux. Alors, il y aura d'autres moments où, par exemple, j'ai la chance à Valence d'être fermée pour le 31 décembre, maintenant depuis quelques années, donc je fête souvent le 31 décembre avec mes meilleurs amis aussi. Et là, c'est moi qui cuisine, mais c'est pas forcément le meilleur moment parce que je suis là un peu à leur service et eux sont souvent un peu frustrés de pas, je sais pas, que je sois suffisamment à table. Donc c'est plutôt le temps idéal pour moi, c'est l'été dans le jardin avec on est tous au barbecue et on travaille ensemble et je leur donne mes petits codes et après ils le refont. Enfin, ils me disent ouais, vous a donné des petits trucs. Et ça, c'est le moment de partage et de cuisiner ensemble et de faire les choses ensemble. Et ça, c'est merveilleux parce que de plus en plus, ils m'emmènent vers ça, mes amis, parce qu'ils en ont marre de me voir cuisiner et de ne pas être à table. Mm-hmm. Et ils sont tellement formidables qu'en fait, ils me disent maintenant, on fait avec toi. Donc, voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est la vraie amitié. Et j'ai eu l'occasion de le faire à 2-3 reprises pendant l'été. Et c'est vraiment des moments forts. Alors, il se trouve que dans ces amis, il y a une femme extraordinaire qui est comme un peu ma sœur, qui est Christine Vernet, qui est une vigneronne. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est le monde du Condrieu, du Côte de Vernon, du Côte Rôti. Les vins rouges sont aussi magnifiques.
Ah oui.
Voilà, ça c'est. Et puis c'est la vallée du Rhône, mais on peut aussi voir un ermitage de Jean Michave que j'adore aussi. Voilà, des gens que je connais depuis toujours, en fait, depuis que je suis enfant. On ne s'est pas forcément connecté si vite, parce que nos parents étaient amis, mais grand respect, et en fait, on fait des métiers, on a repris les métiers que faisaient nos parents, donc ça nous lie aussi entre nous, en fait. Mm-hmm. Et c'est ça aussi le secret, c'est que, voilà, pour Christine particulièrement, en étant une fille d'eux, et donc aussi nos maris s'entendent très bien, donc ça crée vraiment des liens forts, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait rencontrer des amis de Valence, mais qui se connaissaient pas entre eux, de la région, et ils s'apprécient beaucoup maintenant, donc on part même en vacances ensemble, donc c'est des moments forts. Et c'est important aussi pour moi d'avoir ces liens d'amitié avec des gens qui sont pas forcément que de la profession, j'en ai aussi, mais ça me permet aussi une liberté de parole finalement.
Bien sûr.
De grande.
Bien sûr, oui. C'est vrai que quand on vous écoute parler... évidemment que vous êtes Anne-Sophie Pic, la grande chef que tout le monde connaît, mais là, en 20 minutes, on apprend que vous adorez la mode, que vous aimez les comédies romantiques, que vous aimez la lecture, l'art, les vignerons. C'est les magazines de moto. Vous n'êtes pas que une chef.
Oui, mais de toute façon, c'est toutes ces petites choses de la vie qui font qu'on est animé, qu'on est. Il faut être heureux, il faut être positif, et puis. Voilà, c'est ça aussi le mouvement, et c'est aussi la difficulté quelquefois dans un métier qui est aussi un métier de passion. Donc forcément tout est relié à sa passion, mais il faut aussi partir sur des choses aussi un peu différentes. La lecture, tout ça, moi je suis souvent un peu frustrée par le manque de lecture que j'ai aujourd'hui, parce que je trouve que la lecture est une évasion extraordinaire. Donc il faut aussi un petit peu structurer sa vie de cette façon-là et ne rien s'interdire parce que je travaille beaucoup et c'est très bien et j'en suis très contente, mais il faut aussi ses respirations, sinon on va dans le mur et on n'est plus on n'a plus autant d'énergie.
Absolument.
De parler avec vous, ça a été laborieux, mais
oui, mais je suis contente que vous ayez accepté de répondre à toutes les questions. C'était un vrai bonheur en tout cas d'en savoir plus sur vous.
Merci
mille fois. Et à bientôt.
À bientôt. Et puis, passez passer mon bonjour à William Lémergie.
Ah bah avec grand plaisir, je suis avec lui en ce moment même.
Voilà, je le savais, alors voilà, je l'apprécie beaucoup.
Donc, ah, bah je vais lui dire, comme ça on va vous recevoir en plateau.
Avec plaisir.
Merci.
Merci en tout cas de ce moment avec vous, c'était superbe.
Ah, merci beaucoup, à très bientôt.
À bientôt Raphaël, au revoir. Au revoir.
J'espère que cet épisode vous a plu, vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe 2 fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.